Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. La bataille risque d'être longue et les vainqueurs ne manqueront pas de se disputer la victoire tant leurs intérêts sont antagonistes. Mossoul, capitale de la province de Ninive, là où depuis les Assyriens, le Tigre et l'Euphrate tracent les frontières mouvantes, entre les empires et les religions, aujourd'hui ligne de fracture entre l'islam sunnite et chiite, Mossoul est le nœud des ambitions irakiennes, iraniennes, kurdes et turques. Mais depuis plus de 2 ans, elle est surtout le bastion de l'organisation de l'État islamique. Il y a 5 jours, la coalition occidentale, l'armée irakienne et les Peshmerga kurdes passaient à l'offensive. Que va donc devenir Daesh après Mossoul ? Que sait-on de sa stratégie une fois éventré le rêve d'un califat en terre sunnite ? Quelles retombées sur les autres fronts ? En Syrie, en Libye et ailleurs, quels sont les risques de représailles sur notre sol, en France et en Europe, là où Daesh a entrepris de nous faire la guerre à sa façon. C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Jean-François Daguzan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Hocham Daoud, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue au CNRS, spécialiste de la société irakienne, membre de l'Observatoire des radicalisations. Elie Tenenbaum, vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Et au téléphone depuis Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak, Gérard Chalian, stratégiste et géopoliticien, est fréquemment invité dans cette émission. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Commençons, Elie Tenenbaum, avec vous pour que vous nous expliquiez les forces en présence qui avancent vers Mossoul. On a appris ce matin que l'armée irakienne a pénétré dans Karakoche, Karakoche, donc, qui était sous le contrôle de Daesh depuis 2014 et qui est quoi, à une quinzaine de kilomètres de Mossoul,
au sud de Mossoul, sur l'axe principal de progression des forces irakiennes, qui est donc cette autoroute du sud. Écoutez, vous aviez en termes de force en présence, tout d'une part Daesh, c'est-à-dire entre 3 et 9 000 combattants, c'est difficile à évaluer, qui sont en gros insérés dans la ville, qui préparent sa défense depuis longtemps maintenant.
Et une défense, on l'a vu, avec évidemment des mines, des pièges partout, et aussi des drones. On a vu des drones activés par Daesh.
Des petits drones, mais ça c'est désormais connu. Depuis 2006, le Hezbollah, on a vu utiliser des drones, et les mouvements de guérilla ont désormais ces drones capables de parcourir quelques dizaines de kilomètres qui sont à leur disposition. Donc autour de ces quelques milliers de combattants auxquels il faut ajouter évidemment des forces de soutien, de police, de sécurité, un réseau de renseignement qui appartient à Daesh. On a des structures, une structure de force complexe avec d'abord l'armée irakienne.
L'armée irakienne, on sait qu'elle a été en miettes pratiquement depuis que les Américains ont eu cette décision stupide d'en décapiter l'encadrement.
D'une certaine manière, vous avez eu 3 armées irakiennes. Vous avez eu l'armée irakienne démantelée, assise démantelée en 2003 par la décision de Paul Bremer. Ensuite, vous avez une seconde armée irakienne qui a été reconstruite progressivement par les Américains, lentement et laborieusement à partir de 2004-2005, sous la forme de 14 divisions. Et cette seconde armée irakienne s'est à nouveau effondrée d'une certaine manière en 2014 sous la poussée de Daesh et pour tout un tas de raisons. Et il y a eu une troisième armée irakienne qui est renée de ses cendres d'une certaine manière avec le soutien de la coalition internationale, les Américains à nouveau, mais les Français aussi, qui ont participé à la reconstruction et à l'entraînement de cette armée irakienne qui, et désormais ce sont ces 4 nouvelles divisions qui progressent notamment En direction du nord, avec un rôle très important de ce qu'on appelle la division d'or, qui est une unité spéciale antiterroriste, qui, en tout cas à Fallujah, à Ramadi, dans les autres grandes batailles de reconquête de 2015-2016, a joué un rôle central dans les combats.
Donc et puis, il y a évidemment les Kurdes, les Peshmerga.
Les Peshmerga, donc qui sont aux alentours de 40 000 hommes, divisés en deux grandes catégories, puisque le Kurdistan est réparti politiquement entre le PDK de Massoud Barzani et l'UPK de Jalal Talabani, qui du coup ont chacune finalement leurs forces armées respectives. Donc avec
oui, rien n'est jamais simple avec les Kurdes. Mais on a vu que Daesh a lancé non pas une contre-offensive, mais une opération de diversion à Kirkuk, qui a été en fait qui est sous le contrôle des Kurdes, mais des Kurdes de Talabani.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en 2014, quand il y a eu la poussée de Daesh, les Kurdes qui avaient toujours eu des revendications sur la région de Kirkuk sont rentrés et ont préempté d'une certaine manière Daesh en investissant Kirkuk.
Donc Kirkuk, c'est quoi? C'est 120-130 km au sud de Mossoul.
De Mossoul. Et simplement, pour aller plus rapidement à Mossoul, les forces irakiennes ont contourné une poche qui est la poche de Hawija, d'où effectivement certains combattants de Daesh ont pu s'infiltrer pour rentrer à Kirkuk.
Mais ce qu'ils ont fait donc hier. Gérard Chalian, bonjour, merci mille fois d'être avec nous par téléphone. Vous êtes à Erbil, qui est donc la capitale du Kurdistan irakien, donc côté Barzani en l'occurrence. Quelle est votre appréciation du front de Mossoul vu de Erbil?
Il s'agit pour les Kurdes de perdre le moins d'hommes possible, dans la mesure où Mossoul ne va pas tomber dans leur escarcelle, mais essentiellement dans celle de Bagdad. Donc on va travailler ici à l'économie. Il s'agit d'un siège lent, étouffant l'adversaire. Une partie d'ailleurs de l'état-major de l'adversaire s'étant exfiltrée vers le nord, c'est-à-dire en Syrie. Signalons d'ailleurs qu'en Syrie, à l'heure actuelle, l'aviation turque bombarde les Kurdes de Syrie, qui en principe préparaient l'opération contre Raqqa.
Donc ça veut dire que M. Erdogan profite en quelque sorte de la focalisation sur Mossoul pour continuer à régler ses comptes avec les Kurdes syriens qu'il accuse d'être proches du PKK turc.
Vous avez parfaitement résumé la situation, c'est-à-dire profitant du fait que tout est braqué sur Mossoul, M. Erdogan s'intéresse à son problème majeur, et écraser autant que faire se peut les Kurdes de Syrie qui ont pour ambition d'avoir d'un seul tenant un contrôle de la frontière turco-syrienne.
Alors vous dites l'état-major de Daesh a sans doute déjà quitté Mossoul.
C'est ce qu'on dit, c'est probable, c'est très difficile d'être absolument certain de qui, comment, etc. Enfin, c'est un fait qu'à l'abri d'une partie de la population civile, se sont dissimulés des cadres. Bon, bien sûr, pour Daesh, rien n'est fini. Ce qui est terminé, c'est le mythe, en quelque sorte, de la territorialisation. Bon, bah, ils avaient en principe supprimé la frontière, ils contrôlaient un vaste pays dont la presse nous disait que c'était grand comme la Grande-Bretagne, alors que d'une façon générale c'est un désert de pierre, en dehors de l'Euphrate avec Raqqa et puis des résorts, il n'y a rien. C'est-à-dire que le contrôle de la population, Daesh en Syrie ne l'a jamais eu vraiment. Mmh. En ce qui concerne évidemment Mossoul, c'est une autre paire de manches, c'est pourquoi Mossoul c'est un très gros morceau, ça va être difficile, et puis bon, l'après-prise de Mossoul, qui se passera dans l'année 2017, bon, ce sera quelque chose de compliqué sur lequel je ne peux rien dire.
Mais pardon, Gérard Chalian, Mossoul c'est donc une grosse ville sunnite, plus d'1,5 million d'habitants, une ville sunnite qui va donc, selon toute vraisemblance, être prise par des troupes chiites et kurdes. Donc c'est pas simple.
Oui, enfin, c'est ce que j'avais employé déjà comme parallèle avec l'Europe, c'est un peu comme libérer une ville polonaise avec des troupes russes.
Oui. Ce qui a d'ailleurs été le cas. Une question encore. Qu'est-ce que l'on sait ou qu'est-ce que l'on croit savoir? Encore une fois, je rappelle que vous êtes à Erbil, capitale du Kurdistan d'Irak, qui est donc à 60-70 kilomètres de Mossoul, plus à l'est. Que sait-on de la dispersion de Daesh? Est-ce que c'est plutôt vers la Syrie ou vers d'autres fronts qui sont toujours actifs, que ce soit en Libye ou ailleurs?
Ben oui, il n'y a pas que la Syrie. La Syrie, bien sûr, c'est important. Soit dit par parenthèse, à force de nous braquer sur Daesh comme si c'était la seule organisation islamiste, on a un peu oublié le fait qu'il y en a d'autres, et tout aussi islamistes que le Daesh, bien qu'ils n'utilisent pas les mêmes méthodes. Le ex-Jabhat al-Nosra affilié à Al-Qaïda, qui s'est rebaptisé pour passer pour respectable comme Fatah al-Sham, bon, c'est eux qui livrent aujourd'hui la bataille à Alep. Il y a le Harar al-Sham qui est lui salafiste. Il y a des groupements qui regroupent une quinzaine de mouvements islamistes. Tout cela est aidé par l'Arabie saoudite, est aidé par le Qatar, est aidé par nos alliés turcs. En somme, nous sommes dans une situation extrêmement ambiguë où pour les États-Unis, rien n'est clair, et pour les Européens non plus. Alors, que peut faire le Daesh? Bon, ben, il y a évidemment la bataille de Syrie, mais il y a aussi une foule d'endroits où il y a des forces qui sont enfin pro-Daesh. Il y a au Sinaï, il y en a au Caucase, il y en a à l'heure actuelle, par exemple, et c'est relativement peu connu, au Nangarhar, c'est-à-dire à l'est de l'Afghanistan, qu'ils appellent le Khorasan. Eh bien là, il y a des combats avec les talibans qui ont tourné à l'avantage des gens du Daesh.
Et on a même vu des attentats en Arabie saoudite.
Même cela, oui, en effet. Bon, alors évidemment, à un moment, bien sûr, ils vont effectivement étendre les attentats, parce que c'est très bien. Ils vont essayer d'en faire chez les Kurdes demain, bien sûr. Il y a eu Bagdad, il y a eu Kirkuk. Bon, mais il va y en avoir certainement également en Europe. Il n'y a pas de raison qu'ils n'essayent pas de le faire.
Gérard Chalian, merci mille fois d'avoir été en direct avec nous par téléphone depuis Erbil, donc dans le Kurdistan d'Irak. Hocham Daoud, Mossoul donc est une très grosse ville, 1,5 million d'habitants, et donc ça veut dire une catastrophe humanitaire qui a déjà commencé, avec des gens déjà qui fuient bien évidemment. Et comment prévoir des structures d'accueil avec des agences de l'ONU sans moyens et qui sont déjà débordées partout ailleurs? Donc c'est déjà un nouveau désastre sur ce plan-là.
Ce n'est pas encore produit, mais ça annonce. D'autant plus qu'il n'y a pas de préparation sérieuse côté officiel irakien. Aujourd'hui, nous estimons 1,2 million, 1,5 million habitants à l'intérieur de Mossoul. Déjà, quelques 500 000 se trouvent en Kurdistan irakien. Il faut le rappeler, le Kurdistan a 5 millions d'habitants avec une économie pauvre, mais il abrite sur son territoire presque 1,8 million de déplacés, de réfugiés. Pas avec d'aide sérieuse venant de la communauté internationale. Ce qui asphyxie encore plus l'économie locale des Kurdes. Mais venons à la situation intérieure. Il y a une réalité que une partie de la population de Mossoul vont rester sur place. Mmh. Jusqu'à hier, en discussion avec une partie des gens qui vivent là-bas, le tempérament local, la culture, etc., ce sont des gens qui ne savent pas où y aller. Ouais. On les classe, on les distingue dans le sens un peu sociologique de Bourdieu, on les distingue pour les dire qu'ils sont un peu à part. Ce sont des gens, on essaie de les accuser qu'ils ont quand même fréquenté Daesh pour un moment. Donc, à ce côté-là.
Mais est-ce qu'on peut penser qu'ils vont être soulagés de les voir partir, ou qu'au contraire, Daesh, finalement, instaurait, dans toute son horreur par rapport à nos critères, mais instaurait un certain ordre social?
Et c'est l'inquiétude qu'ils s'emparent. Ils ne savent pas. D'un jour, ils disent, bon, l'attaque, ça va être foudroyante, rapide, bon, il sera libéré d'un peu de temps. Au lendemain, un général américain bien installé, et donc ils disent, non, ça va durer un long moment, peut-être un an. Donc, avec tout ce qui implique sur le terrain, siège, encerclement, et Daesh, il passe à une stratégie qui était utilisée par Saddam Hussein, l'ère de guerre de Koweït, et même en 2003, la terre brûlait. Mm-hmm. On brûle le puits de pétrole. Avant-hier, ils ont détruit le siège du gouvernorat de Mossoul. Avant, ils ont même détruit leur propre siège de renseignement. Ils ont enlevé la plaque de voiture. Ils circulent plus en 4x4. Ils utilisent davantage de motos. Ils deviennent beaucoup plus mobiles. Ils apparaissent d'un jour massivement, ils disparaissent deuxième jour. Ils sont très mobiles sur le front. Ils retirent l'essentiel de leur force, de ce qu'on appelle la plaine de Mossoul, qui est entre Erbil et Mossoul, parce que c'est peu défendable, c'est plat, mais ils se concentrent à l'intérieur. Bien évidemment, la coalition, elle laisse un petit corridor au cas où quelques-uns qui sortent pour préserver le plus possible l'intérieur de Mossoul, mais on ne sait pas. Venons à votre question. Il y a 1,5 million. Si 500 000 personnes quittent Mossoul précipitamment, il n'y a pas de structure d'accueil. Oui. Pire encore, il y a une autre question. Les Irakiens n'ont pas beaucoup d'informations. Quel jeune était avec Daesh ou quel n'était pas. À ce moment-là, il y aura des arrestations arbitraires, selon l'âge. Donc, on soupçonne ce qu'il y a entre 15 et 25 ans, il pouvait y être avec Daesh. Mais si je fais un calcul statistique, par rapport à la population, ça veut dire qu'il y a 300, 400 000. À ce moment-là, si on arrête 150 000, quelle prison? Quelle structure? Qui va l'interroger? Qui va l'encadrer? Est-ce que nous serons à l'abri?
Et donc, exécution sommaire, vraisemblablement.
Disons, la force irakienne officielle essaie de dire, ben, cette fois-ci, ça passera d'une manière convenable, sous l'autorité, un peu sur le regard de la communauté internationale. Mais franchement, vu la diversité des forces sur place, on peut craindre de temps en temps qu'il y aura des débordements.
Alors expliquez-nous jusqu'à quel point Mossoul, donc grande ville sunnite, qui représente aussi, je crois, pour la tradition wahhabite, donc les plus extrêmes dans le monde sunnite, il y a un lien particulier entre le wahhabisme et Mossoul.
Disons, à un moment donné, pour les gens de Daesh, en s'installant à Mossoul, ils ont dit qu'il y avait un lien historique. Mohamed Ben Abdel Wahab, à l'époque, le prêcheur du mouvement wahhabite, il a passé par Mossoul. D'autres prêcheurs islamistes, fin 19e, début 20e, certains écrits à gauche, à droite, ils ont même prédit que le califat, s'il renaîtra un jour, ce sera à Mossoul. Donc, tous ces discours symboliques étaient utilisés par Daesh au moment de déclaration de califat il y a 2 ans.
Donc ça, c'était juin 2014.
2014. Mais Mossoul, c'est une ville, c'est vrai, elle n'a pas... Dans le sunnisme, il y a 4 écoles. Le Hanbalite, où se donne le wahhabite, n'est pas tout à fait dominant à Mossoul. Mais le Daesh, il emploie une approche très rigoureuse, très radicale par rapport à l'islam sunnite. Ce qui prend de wahhabisme le plus dur, ce qui prend de l'histoire aussi de Ben Taymiyyah et d'autres la plus dure, ce qui prend de frères musulmans égyptiens la plus dure, pour créer quelque chose qui est propre à Daesh, qu'il dépasse largement dans le côté un peu la fermeture du système qui est installé sur place. Mossoul, c'est vrai, c'est sunnite, mais il y a une forte diversité ethnique. Et la présence chrétienne est très importante. Il y a même des chiites. Vous savez, la ville de Tal Afar, il était de 250 000 personnes, oui, majoritairement turkmènes. Les turkmènes, ils sont presque à 40% chiites. Et cette ville-là, il était à 30 à 40% était chiites, qui les ont vidés d'ailleurs.
Donc, ça reste une mosaïque, mais à dominante sunnite. À partir du moment où Daesh, établissant donc le califat sur ce postulat, d'effacer les frontières coloniales et de dénoncer les états impies, bassistes ou autres de la région. Mais à partir du moment où Daesh perd cette emprise territoriale majeure en Irak, ça veut dire que comment dire, toute cette construction s'écroule.
Militairement s'écroule. Socialement.
Mais aussi idéologiquement.
Idéologiquement, il y aura. Les gens, maintenant, ils sont s'emparés de doutes. Donc, tout le monde, ils doutent que la capacité de Daesh, ils pourront renverser les tendances. L'échec de Daesh, aux yeux des populations de Mossoul, c'est irréversible. Il y aura un recul. Mais Daesh, il restera un peu décimé en termes de réaction, en termes de voitures piégées, en termes de kamikazes, en termes de mobilisation des gens, tant que la réponse politique et sociale et sociétale n'était pas apportée. Et j'en doute qu'il sera apporté dans les années à venir proches. Ce qu'on a vu hier à Kirkuk, l'incursion, c'est non seulement ils ont venu de l'extérieur, mais il y a aussi des gens qui se trouvent à l'intérieur des villes. Des gens qui sont rentrés dans la mosquée, ils ont parlé à des populations de Kirkuk hier. Mais ils ont parlé en kurde. Ça veut dire qu'il y a des gens en kurde de Kirkuk, ils parlent aux autres kurdes au nom de Daesh. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui traverse la société. Ce n'est pas des gens étrangers, un corps étrange qui est là, Daesh, on peut l'extirper. C'est quelque chose qui
a pénétré.
qui façonne une partie de la société irakienne, société locale, sur un cumulus de problèmes non résolus depuis un moment, exacerbés depuis l'occupation, depuis une gestion politique mal faite jusqu'à maintenant, avec répartition de pouvoirs de richesses absolument inégales, avec incursion de pays de la région, avec le rôle des Américains qui était quand même à bien des égards critiquable, etc. Comment apporter des réponses? Maintenant, je dirais, il faut donner un peu crédit à ce qui se passe à Bagdad. L'armée irakienne veut prendre l'avantage pour rentrer à Mossoul, c'est une bonne chose. Qu'ils veulent défendre la souveraineté irakienne, c'est une bonne chose. Mais une souveraineté irakienne, ça veut dire quoi? Un retour musclé de Bagdad, on impose aux autres. Bon, il faut penser quand même la forme de l'État en déléguant de pouvoir à une décentralisation qui soit acceptable. Donc, tout reste à refaire. La plus difficile est devant nous concernant quelle formulation pour l'Irak demain qui va être un laboratoire aussi positif que négatif pour le reste de la région, en particulier la Syrie.
Jean-François Daguzan, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique ici à Paris. Précisément, donc, Mossoul, en quelque sorte, la clé de ce laboratoire dont vient de parler Hocham Daoud, en tout cas, quel Irak demain, une fois Mossoul tombé?
Oui, oui, je partage totalement ce qu'a dit Hocham sur cette problématique de l'Irak de demain, dans la mesure où le traitement de la guerre à Mossoul va être d'abord déterminant de ce que seront les relations intercommunautaires. Il faut se rappeler quand même, lors des reprises de certaines villes sunnites par les forces irakiennes, accompagnées des milices chiites plus ou moins contrôlables, les populations ont été terrorisées. Donc, la population de Mossoul, qui plus est particulièrement nombreuse, voit avec appréhension arriver des gens qui ne sont pas forcément vécus comme des libérateurs. Et ce qu'on disait sur le fait que l'État islamique ait créé un modèle d'ordre, etc., auquel on adhérer par la force ou par une adhésion libre une partie de la population, en réaction à une vision d'un État irakien chiite dominant et répressif, est une réalité dont il va falloir tenir compte. Et de ce point de vue-là, il faut espérer que la communauté internationale, c'est-à-dire les alliés qui accompagnent l'offensive, jouent un rôle stabilisateur et médiateur pour éviter une catastrophe à la fois humanitaire et politique. Parce qu'il y a effectivement donc cette question des réfugiés que tu évoquais tout à l'heure, mais également la reconstruction derrière qui doit se faire avec l'association de la communauté sunnite au partage du pouvoir sous quelle forme. Alors là, c'est extrêmement compliqué puisqu'on a vu que le modèle actuel ne fonctionne pas vraiment, mais qui est une des rares voies de sortie d'une reconstruction qui effectivement intéresse directement également la Syrie, puisqu'aujourd'hui, plus question de penser à une Syrie unitaire, comme on le rêve parfois encore dans certains cénacles diplomatiques.
Alors, on a vu qu'à Paris, jeudi dernier, a été organisée une conférence pour essayer de préparer l'après Daesh à Mossoul. Bon, on ne pouvait guère en attendre des résultats concrets, manifestement, mais est-ce que ça veut dire qu'au sein de la coalition internationale menée par les Américains, les Européens et d'abord les Français, pour toutes les raisons douloureuses que nous connaissons, la kyrielle d'attentats qui ont ensanglanté la France, est-ce que cela veut dire que l'on craint bien évidemment des retombées en Europe et singulièrement en France de ce qui se passe à Mossoul?
Je crois qu'il faut voir les choses de deux façons. Il y a la liquidation de l'État islamique en Syrie et en Irak, qui est une réalité à peu près certaine, ça mettra du temps, mais on va faire tomber l'espace territorial de Daesh. Avec la perte de Mossoul, la conquête d'Abyk tout récemment, Raqqa menacée, bon, après...
Raqqa, donc en Syrie, en qui Syrie, reste voilà, la dernière place forte...
Là, qui est la capitale, entre guillemets, de l'État islamique. Bon, Deir ez-Zor étant ensuite une autre question, mais qui est marginale par rapport à ces premières-là. Donc, la disparition de l'État islamique sur le terrain ne change rien, d'une certaine manière, à la déterritorialisation de l'idéologie de l'État islamique, comme celle d'Al-Qaïda d'ailleurs, qui de toute façon va continuer à fonctionner, et je dirais avec en plus un effet goutte de mercure, vous tapez sur la goutte de mercure et elle s'éparpille.
Ouais.
Et donc le vrai problème d'une certaine manière, ce serait de se focaliser politiquement, stratégiquement, sur la chute de Daesh en Irak et en Syrie, alors même que le problème demeure, y compris chez nous, puisque le djihad, il est chez nous également, et qu'il ne se réfère pas qu'à une problématique syro-irakienne externe, mais à des problématiques nationales liées à des questions de société, des questions d'identité, etc., d'une partie de la population. Modèle que nous retrouvons également en Europe, évidemment. Donc,
qui est particulièrement aiguë en France.
Particulièrement, eu égard au nombre de combattants étrangers français partis là-bas et de ceux qui sont identifiés comme potentiellement dangereux sur le territoire à travers les fiches S. Donc, on a le vrai danger pour moi, c'est qu'on affiche un communiqué de victoire en faisant tomber Daesh à l'extérieur, comme on avait pu le faire d'ailleurs avec Al-Qaïda 15 ans avant en Afghanistan. Et vous pouvez remarquer que 15 ans après, même si Al-Qaïda, noyau central, a été globalement détruit, y compris par la mort de Ben Laden, le modèle Al-Qaïda continue de fonctionner. Donc, pour moi, l'inquiétude serait de la surévaluation stratégique de ce qui est quelque chose de très important, évidemment, pour la stabilisation du Proche et du Moyen-Orient, mais qui ne peut pas être considéré comme une victoire absolue et définitive.
Elie Tenenbaum, qu'est-ce que l'on sait ? Il y a énormément d'analyses, bien évidemment, sur les phénomènes de radicalisation en Europe et d'abord en France. Les enjeux de sécurité et de défense sont majeurs. Qu'est-ce que l'on sait de l'appareillage sécuritaire, en quelque sorte ? Jusqu'à quel point a-t-il été renforcé par rapport à la réactivation des réseaux Daesh en France et ailleurs en Europe ?
Tout d'abord, je pense qu'il faut effectivement rappeler que le déclenchement de la guerre civile en Syrie a eu un effet multiplicateur considérable sur les mouvements djihadistes en France et en Europe. C'est-à-dire là où vous aviez quelques dizaines ou quelques centaines d'individus, vous avez eu tout d'un coup quelques centaines d'individus sur place et quelques milliers d'individus concernés par ces filiales en France. Et à ce titre, d'ailleurs, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Gérard Chalian. Le djihadisme ne se résume pas à Daesh. Et vous avez tout un tas de groupes djihadistes, notamment en Syrie, qui sont tout aussi préoccupants au regard de leurs ambitions internationales, et qui ne font pas partie, au contraire, qui combattent Daesh. Mais voilà.
Mais ce qu'on a perçu douloureusement en France, c'est la signature de l'organisation de l'État islamique.
Oui, et en même temps, rappelons-nous que les frères Kouachi se revendiquaient d'Al-Qaïda au Yémen et non de l'État islamique, et que l'un des plus grands propagandistes français francophones, qui est Omar Homsen, est dans les rangs de Jabhat al-Nusra, enfin Fateh al-Sham.
Qui est donc l'une des factions qui se bat à Alep, pour l'occurrence.
Oui, absolument. Et qui, historiquement, Al-Qaïda en Syrie, même si ils ont officiellement rompu le lien, mais avec la bénédiction de Zawahiri, donc ça ne trompe pas grand monde. Et donc, effectivement, on a cette sphère djihadiste francophone et plus largement européenne, avec, on estime, environ 700 Français djihadistes qui se battent encore aujourd'hui sur place, 250 par ailleurs qui sont revenus, qui sont sur le territoire français.
Et qui sont fichés S, ceux-là.
Alors qui sont, on l'espère, fichés S. Et puis, plus généralement, la constitution, effectivement, d'un certain nombre de fichiers en France, dont le dernier en date, le fichier de signalisation pour la radicalisation, qui compterait autour de 15 000 personnes. En France, qui est un fichier très large cette fois-ci.
Et qui serait préventif en quelque sorte.
Qui est un fichier préventif, administratif, à fin administrative et non à fin judiciaire. Hein. Donc le fait d'être présent, d'avoir son nom dans le fichier FSPRT, donc pour la radicalisation, n'est pas une mesure suffisante, n'en déplaise à certains, en tout cas pour avoir des mesures d'ordre coercitif et
Et on va voir à quel point la question va d'ailleurs en enflammé là, évidemment, la campagne présidentielle en France. Mais il faut dire qu'en France, le problème est d'autant plus aigu que l'on parle de citoyens français.
Absolument. Ça fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, les dispositions juridiques mises en place par les États-Unis au lendemain du 11 septembre, du type combattant, ennemi étranger, qu'ils avaient créé pour créer Guantanamo, ne sont pas véritablement possibles de toute façon en France, dans la mesure où il s'agit de citoyens, sauf à leur retirer leur nationalité, ce qui nous ramène
et
à un
débat. Et en plus, les enfants qui sont nés, parce qu'on a vu beaucoup de femmes.
Oui, absolument. On a 400 mineurs français qui sont présents sur place, qui vont revenir. On a eu d'ailleurs récemment, dimanche dernier, le cas d'une femme et de ses trois enfants qui a été intercepté à l'aéroport de Roissy, qui est de retour de Syrie, avec des enfants qui avaient entre 2 et 7 ans. Donc, pour certains qui sont nés là-bas, qui ont donc la nationalité française, mais qui n'ont connu que...
Que le monde selon Daesh
jusqu'à présent.
Et il y a évidemment en plus évidemment le drame des réfugiés à ne pas confondre bien évidemment avec des terroristes en puissance, mais qui néanmoins accroît la pression un peu partout en Europe.
Oui, ça contribue à l'augmentation des tensions politiques, sociales, en Europe, en France même.
D'ailleurs, ce matin même, pardon, je vous interromps, mais on voit qu'en Belgique, dans le Hainaut, un homme armé a surgi dans un supermarché. Alors, il semblerait que ça n'a rien à voir avec un groupe terroriste, mais on voit à quel point, évidemment... tous nos pays vivent dans cet état d'alerte permanent. Hocham Daoud.
Oui, sur cette question, un regard un peu sur le fond. Je crois que la production de telles formes d'action, d'agissement djihadiste n'a plus un centre aujourd'hui. Vu du Moyen-Orient, où je travaille tout le temps, c'est en fait le Moyen-Orient qui est envahi par des djihadistes venant de un peu de partout.
Mais Daesh est quand même un produit irakien au départ.
C'est un produit irakien, local, avec un ancrage local, ce qui les différencie par rapport à Al-Qaïda. Il se reste avec une structure, une affinité, une culture vraiment locale. C'est là où ça se complique quand on traverse la frontière pour aller en Syrie. L'essentiel du djihadisme français et d'autres, il se trouve en Syrie beaucoup plus qu'en Irak. Mmh. Donc c'est là où cette question pose. Pourquoi ceux qui sont en Syrie et ils vont en Syrie, les djihadistes, et notre diplomatie en Europe, etc., est beaucoup plus indulgent avec les djihadistes en Syrie, que ces mêmes djihadistes, ils se retournent contre nous en Europe. Mmh. Ça doit nous interroger, parce que jusqu'à il y a un an, la priorité était en Europe, y compris en France, on ne faisait pas des chronologies par rapport à nos adversaires. Mmh. Donc, à ce moment-là, moi, ce que j'ai dit par rapport à l'Irak, c'est un phénomène local, il sera étouffé localement avec des projections vers l'extérieur. À ce moment-là, la projection, ça se fait en termes de circulation d'argent, de réseaux, de financement, ceux qui l'ont des savoir-faire qui sont partis. Aujourd'hui, si je vous prends le cas de Mossoul, aujourd'hui, entre 5 à 8 000, il y en a très peu ou pas de combattants arabes.
Oui.
L'essentiel, ils sont ceux de côté des Irakiens. Ils sont Irakiens de loin majoritaires. Ceux qui sont, mais ils sont davantage d'Asie centrale. Ça va d'Ouzbek, Tchétchène, Caucase, jusqu'à la Chine, Ouïghour. Et il y a aussi venant un peu d'Europe, mais ce n'est pas en nombre d'essentiels. Tout l'état-major de Daesh, à part Baghdadi, a été éliminé, totalement. Aujourd'hui, ceux qui ont le commande à l'intérieur de Mossoul, ce sont des militaires, certains ils sont d'anciennes armées de Saddam Hussein, ils sont locaux, la plupart du temps ils sont même des régions de Mossoul. Daesh a nommé hier, pas plus tard qu'hier avant-hier, un nouveau Ali. Wali, ça veut dire le gouverneur au nom de Daesh de Mossoul. Vous savez, ce type-là, il est né en 1988. Il est très jeune. Donc ça veut dire que ces jeunes-là, ils sont portés. Ça, sur ce premier point. Deuxième point concernant le problème, cette dramatique des enfants nés sous Daesh.
Oui.
L'estimation que nous avons, c'est entre 30 et 40 000 enfants nés en zone de Daesh. Aucune réflexion qui est menée sur cette question-là. Connaissant la société locale, une fois Daesh, il sera repoussé. Comment on va traiter ces enfants qui sont nés, ils ne sont pour rien. Ni l'état civil qui l'accepte, ni la société locale, ni au niveau de l'école, ni même la famille dans le sens élargi. Donc, s'il n'y aura pas un plan...
D'autant que la politique de viol systématique
aussi,
a fait partie, hélas, comme toujours, depuis la nuit des temps, des armes de guerre.
Et si on n'a pas une réflexion, un plan au niveau international... nous sommes en train de passer à côté d'une génération beaucoup plus dangereuse. Il faut savoir, la seule couche de la population qui a attiré l'attention de Daesh d'une manière absolue, c'est les jeunes entre 12 et 18 ans. Mmh. Aujourd'hui, la plupart des opérations kamikazes, je dis pas toutes, la plupart est commise par des jeunes entre 15 et 25 ans. Donc c'est une génération qui était largement mise en avant, largement favorisée par Daesh, l'éducation, recrutement, formation.
Et les méthodes de propagande, l'utilisation des médias, des jeux vidéo, les techniques de communication aujourd'hui.
J'ai étudié le système scolaire dans les zones de Daesh, j'ai étudié les termes même d'adresse de communication, le recrutement. Il y avait en effet quelque chose de très particulier qui demande d'attirer l'attention de la part des communautés internationales, car en voyant ce qui se passe sur le terrain, malheureusement, dans la plupart des cas, on va refouler ces gens-là comme ils étaient fautifs, ou leurs mères ne les ont pas encadrés, ou ils étaient violés, ou leur père est mort, ils ne connaissaient pas leur père djihadiste qui est venu, il a péri sur place, etc. Mais il ne s'agit plus de 2, 3, 5, 10 cas, il s'agit de milliers.
Oui. Jean-François Daguzan, c'est là où on voit que ce qu'on appelle la coalition internationale, là aussi, est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui, une analyse correcte de tous ces enjeux extraordinairement complexes.
Si on regarde les dernières expériences, à savoir les 15 dernières années, on peut quand même constater qu'on a eu un don tout à fait particulier à rater les après-guerres.
C'est poliment dit.
Que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Libye, etc. Et l'Irak, n'en parlons pas, qui est le chef-d'œuvre de la catastrophe. Surtout que Hocham soulève un point absolument majeur, qui est la question de l'âge. Et pas seulement en Syrie, et pas seulement en Irak, mais au Yémen, c'est pareil, et en Libye, c'est la même chose. Les chefs de guerre là-bas, que ce soit les chebabs somaliens, c'est la même chose également.
Et l'Afghanistan, rajoutez-le.
Et alors, évidemment, l'Afghanistan, les chefs ont 25 ans. C'est-à-dire qu'on voit disparaître, éradiquer à coup de drones tueurs ou par l'action des forces des différents services, les chefs historiques. Et on voit émerger des générations ou une génération qui ne fait que combattre, et qui a commencé à 15 ans et qui devient chef à 25. Et si l'on n'en prend pas en compte cette logique-là, et aujourd'hui au Yémen, c'est extrêmement intéressant de voir qu'on essaye désespérément de créer des négociations avec des gens qui ne contrôlent rien sur le terrain, mais c'est la même chose en Syrie d'une certaine manière aussi, puisque la main est passée justement à cette génération combattante qui, elle, s'est construit une identité, qui s'est construit, j'allais dire, une respectabilité, massacre compris, et avec du pouvoir économique dedans, parce qu'on oublie toujours cette question économique majeure qui est au cœur, finalement, ensuite, du partage du pouvoir, et qui est celle qui va tenir les cordons de l'action et du pouvoir, et qui est totale, et qui passe totalement par-dessus la tête de ceux qui, en Occident, en France, ou dans la communauté internationale élargie, essayent de trouver des solutions. Et si on n'a pas ce retour sur le terrain, au cœur justement de qui est le patron, qui fait quoi, est-ce que ce type peut avoir une marge de négociation, même si c'est un salaud, parce que, comme disait Rabin, on fait la paix avec ses ennemis, et tout en considérant évidemment qu'il y a l'éradication de Daesh est une nécessité absolue, au-delà de ça, comment on reconstruit justement des relations sociales et politiques, et avec aussi un élément qu'a soulevé Elie, qui me paraît aussi très important, qui est la féminisation. 25% en gros de femmes qui sont notamment en France, selon les estimations, 25-20% de femmes qui sont parties de l'autre côté.
À la tête de la coalition internationale et de façon massive, bien évidemment, les États-Unis dont on sait à quel point la politique depuis la deuxième guerre d'Irak a été, il faut bien dire, une catastrophe. On voit, Eric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, notre partenaire. On voit bien que cette bataille de Mossoul pour Barack Obama, qui est encore dans le bureau ovale pour quelques mois, enfin jusqu'à la mi-janvier. Mais pour lui, c'est évidemment un enjeu essentiel, surtout par rapport à l'avalanche de critiques dont sa politique ou son absence de politique au Moyen-Orient a fait l'objet.
Et bien sûr, il s'agit même d'un sujet effectivement très important pour lui, comme l'explique très bien le New York Times, car cette bataille en fait de Mossoul va permettre de tester en grandeur réelle la doctrine qu'il a élaborée et qui consiste pour les États-Unis à aider militairement les autres pays plutôt que de mener eux-mêmes des guerres. Toutefois, explique le New York Times, ces choses ne vont pas se régler du jour au lendemain. La manière dont la bataille de Mossoul va se dérouler, et on ne parle pas uniquement des combats des prochains jours ou des prochaines semaines, mais aussi de la reconstruction de la ville dans les mois qui vont suivre. Donc la manière dont la bataille de Mossoul va se dérouler servira à établir l'héritage d'Obama en tant que chef de guerre, un chef de guerre qui a cherché à retirer les États-Unis de la ligne de front contre le terrorisme. Alors les Américains, on l'a vu, ne sont pas totalement absents de cette bataille de Mossoul. Nous dit le New York Times, près de la moitié des 5000 soldats présents aujourd'hui en Irak seraient impliqués dans cette opération. Et parmi eux, on compterait entre 200 et 300 commandos des forces spéciales qui se trouvent à proximité de la ligne de front. Il n'en reste pas moins que Mossoul constitue l'exemple le plus important de ce modèle de contre-terrorisme mis en place par l'administration Obama depuis l'Afghanistan jusqu'à la Libye. Un modèle parfois critiqué, qui a été qualifié de leadership en retrait. Mais pour le New York Times, la seule question qui vaille est la suivante. Est-ce que, lorsque Barack Obama va quitter la Maison Blanche, l'État islamique aura bien été mis en échec?
Oui, il faut quand même se souvenir qu'à l'actif de l'administration Obama, il y a la disparition de Ben Laden. Donc en mai 2011, et que ça a été salué évidemment à l'époque comme un pas décisif, et surtout par rapport aux attentats du 11 septembre. D'ailleurs, Hillary Clinton était à l'époque secrétaire d'État. Alors on voit que, comme souvent d'ailleurs, l'élite des think tanks et les intellectuels de la côte est américaine qui s'intéressent à ces sujets, à commencer par Farid Zakaria, approuve évidemment le leadership from behind,
le leadership en retrait, stratégie de Barack Obama.
Français,
alors, effectivement, Farid Zakaria lui-même concède qu'il s'agit sans doute d'une expression malheureuse, mais en tout cas, selon lui, l'idée est bonne, car elle consiste pour les États-Unis à obliger finalement les autres parties à prendre leurs responsabilités et à passer à l'action. Alors dans le cas de Mossoul, écrit Farid Zakaria dans le Washington Post, le résultat de la bataille ne fait guère de doute. D'un côté, les plusieurs dizaines de milliers d'hommes de la coalition qui bénéficient donc du puissant soutien aérien des États-Unis. De l'autre, selon entre 3000 et 9000 soldats de l'État islamique, le problème, écrit le journaliste, même si elle paraît acquise, cette victoire sur le terrain ne suffira pas. C'est ce que on disait tout à l'heure, car selon lui, le vrai défi pour la coalition, c'est de s'assurer qu'en reprenant Mossoul, elle ne déclenche pas un engrenage de violence confessionnelle. Quand Mossoul était tombé aux mains de l'État islamique, rappelle-t-il, beaucoup d'experts, y compris au sein de l'administration Obama, voulaient que Washington vole au secours du gouvernement irakien. Mais le président Obama avait résisté à ces appels parce qu'il avait compris, lui, que le problème de fond était une question confessionnelle, un sujet qui risque donc de se reposer très rapidement.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Elie Tenenbaum, imaginons donc que Mossoul tombe, selon un calendrier évidemment imprévisible. Aussitôt, on va voir des tractations politiques qui sont probablement déjà enclenchées pour savoir qui va s'attribuer ou même comment se partager la victoire.
Absolument, c'est d'ailleurs l'une des raisons aussi pour laquelle le début de la bataille a tant duré, c'est-à-dire que vous aviez des négociations politiques entre les Kurdes, le gouvernement de Monsieur Abadi à Bagdad, sur et évidemment les forces politiques sunnites anciennement partie prenante de l'administration de la province de Ninive, qui étaient à la manœuvre pour savoir les conditions politiques et sociales et administratives de cette reconquête. Le point essentiel, évidemment, est de ne pas reproduire les conséquences et les conditions d'émergence qui ont permis l'arrivée de Daesh. C'est-à-dire, il faut bien se souvenir qu'en 2011, quand monsieur parlait du retrait américain d'Irak, les troupes américaines se sont retirées d'Irak. Le gouvernement de Maliki, à l'époque, fortement à majorité chiite, s'est empressé de casser toutes les négociations et tous les accords que les Américains avaient plus ou moins essayé de mettre en place entre sunnites et chiites pour assurer aux sunnites une place dans la gestion politique du pays,
et notamment dans le Nord. Richesses.
Et vous avez en décembre 2011 Maliki qui écarte Tariq al-Hashimi, qui était son vice-premier ministre sunnite, et à partir de là, les sunnites qui sont à nouveau totalement marginalisés. Et d'une certaine manière, c'est cette marginalisation politique et sociale d'une partie tout de même importante de la population irakienne qui a donné les conditions d'émergence de Daesh, les tribus qui étaient marginalisés, etc. Et si on reproduit ces conditions, et ben évidemment, on se retrouvera dans quelques années avec un nouveau Daesh, avec ce problème de ces provinces, de l'Anbar et de la province de Ninive, qui perdureront, parce que d'où la question du poids, et même militairement aujourd'hui, de voir la manière, et ça c'est à la décharge du gouvernement de Monsieur Abadi,
gouvernement de Bagdad, donc.
Oui, du gouvernement de Bagdad, les forces, les milices chiites ont été mis relativement en retrait depuis la bataille de Fallujah, même si régulièrement elles font du forcing pour essayer de pouvoir rentrer dans ces territoires sunnites. On a quand même l'impression que on a un nouveau gouvernement qui essaye dans une certaine mesure de mettre des forces sunnites sur le devant de la scène, même si c'est excessivement difficile. Mais on a des milices sunnites qui aujourd'hui sont menées par monsieur Al-Fayyad et qui sont tout de même intégrés dans les forces et à mettre sur le devant de la scène.
Donc ça, c'est encore une fois
évidemment
à creuser
l'enjeu de l'après prise de Mossoul. Mais tout ça peut changer aussi au rythme des opérations et en fonction de qui est le plus opérationnel aussi sur le terrain, puisque la puissance militaire est aussi un relais politique.
Hocham Daoud, quand on élargit le prisme, on voit donc la Turquie de M. Erdogan profite et surtout à l'est de la Syrie de la situation pour s'en prendre encore une fois aux Kurdes de Syrie, mais il y a aussi l'Iran et l'Arabie Saoudite qui sont extrêmement attentifs à ce qui se passe à Mossoul et au-delà, puisque bien évidemment la bataille à Alep continue, la trêve humanitaire que M. Poutine avait condescendu à accorder, donc 8 heures, 11 heures, mais c'est fini, donc la bataille d'Alep continue, et encore une fois, les grandes puissances régionales sont aux aguets.
Oui, ce qui s'est passé depuis 2003... Il y avait la chute du régime de Saddam Hussein. Quelques années auparavant, il y avait l'Afghanistan. Quelque chose qui était libéré à ce moment-là, c'est de confrontation entre chiites et sunnites, mais à l'intérieur de chaque société sur place. À l'intérieur de l'Irak, il y avait au Liban, entre Hezbollah et le reste. Et on avait ce type de conflit. Mais depuis 2010 presque, ce type de confrontation est devenu étatique. C'est entre l'Iran d'un côté, avec la puissance qu'elle possède, l'Arabie Saoudite et ses alliés de l'autre. Et les acteurs locaux, qu'ils étaient chiites ou sunnites, s'expriment politiquement comme courant politico-religieux, et ils se subordonnent volontairement ou par la force à des États dans la région. C'est qu'on voit qu'ils perdent relativement leur autonomie locale de décision.
Parce qu'ils sont financés, armés par l'Iran,
par le pays voisin.
Il
affaiblit d'ailleurs sciemment, parce que si cette force-là, même étant confessionnelle locale, il jouera à un moment donné le jeu local parce que leur base est à l'intérieur. Or, il y a une stratégie absolument cynique, c'est tout en subordonnant, mais en continuant d'affaiblissant et même divisant la force à l'intérieur, que ce soit chiite ou sunnite et les autres. Sinon, ils échappent.
Même l'Iran.
L'Iran adore à diviser ses alliés. Il y avait au Liban le Hamal, mais ils ont créé Hezbollah. Il y avait en Irak plusieurs courants politiques ont créé à côté. Ce qui se passe sur le fond en Irak, derrière la bataille de Mossoul, c'est toute la forme de le futur Irak qui se présente. Avec les milices chiites et les autres, est-ce qu'on va créer ce qu'on appelle un pasdaran irakien parallèle à l'armée officielle? Parce qu'à côté, il y a autre chose qui se passe. L'Irak est de retour après 13 ans avec une armée, embryonnaire mais une armée. Avec des généraux qui mènent de bataille, ils gagnent et ils ont des visibilités et je dirais même un accueil chaleureux populaire. Ça, c'est le souhait, je dirais, la nostalgie irakienne. Mais est-ce que sur le terrain, le rapport de force, ça peut passer? C'est une chose. Deuxièmement, les Turcs, ils disent, c'est une région de notre compétence stratégique. Il y avait le pétrole et le pari sur le Kurde. Or, aujourd'hui, le Kurde, il s'entretue.
Donc, le pétrole, le pari sur les Kurdes, avec, il faut bien dire, des liens assez étroits, économiques en tout cas, entre la Turquie et les Kurdes côté Barzani, côté Erbil.
Côté Erbil. Et même avec l'Irak au départ. L'Irak, il était le deuxième marché turc.
Ouais.
Maintenant, ils disent, bon, la chose se défend. Et le Kurde, il se divise entre eux. Il n'y a pas une seule administration, il y en a trois aujourd'hui au Kurdistan d'Irak. Donc à ce moment-là, les Turcs, ils disent, si on rentre en tant que protecteur seulement comme Turquie, il faut qu'on joue les cartes entre le Kurde de Turquie qui sont réfugiés en Irak, que nous sommes pour protéger la frontière contre l'avancée iranienne chiite, que nous sommes aussi pour protéger nos alliés kurdes d'Irak contre les autres qui est Barzani. Mais comme tout cela ne suffit pas, on dit à l'Arabie Saoudite, bah écoutez, vous savez, quelque part, nous sommes aussi sunnites comme vous, et nous devons faire un front pour stopper l'avancée iranienne. Donc vous voyez l'emboîtement de problèmes qui se passe. Alors les Irakiens, ils se posent des questions. Soit par, je dirais, une segmentation poussée un peu plus, soit pour trouver un régulateur politique qui est un centre crédible, mais il faut qu'il soit négocié, en accord commun. Les Américains disent, Moudel Maliki, un homme de poigne, qui était entre 2006-2010, qui a donné le résultat qu'on a escompté, qui
erreur
a favorisé
fatale.
L'apparition de Daesh, nous ne voulons plus. Donc maintenant, nous avons un Abadi, mais il faut qu'il soit un Abadi
donc,
maniable, simple, qu'il joue son rôle institutionnel de médiation, beaucoup plus qu'un homme de pointe qu'il peut avancer avec des chars et des tanks pour mater telle ou telle population. À ce moment-là, c'est un pari beaucoup plus qu'une réalité.
Jean-François Daguzan, on voit les ambitions turc est d'autant plus affirmé depuis la purge massive exercée au sein de l'armée turque depuis le coup d'État raté de la mi-juillet qui permet à M. Erdogan d'affirmer plus encore son pouvoir. L'Arabie Saoudite, donc Hocham Daoud vient d'en parler, donc on retombe aussi sur l'imbroglio, ou plus exactement la paralysie en Syrie, où là, c'est la Russie, en quelque sorte, qui a la main.
Oui, parce que c'est la seule, finalement, qui a la liberté d'action. Elle n'a aucun complexe. Elle a décidé qu'elle, entre guillemets, s'asseyait sur la communauté internationale, que ce soit à l'ONU ou dans quelconques instances, et que donc elle avait la capacité d'agir seule. Agir
plus seule. La fenêtre de tir de la fin du mandat Obama aux États-Unis.
Bien entendu, qui lui laisse alors là une liberté d'action de plusieurs mois, le temps qu'une nouvelle administration se mette en place. Donc nous sommes, de ce point de vue-là, je dirais, dans le timing parfait pour les Russes d'avancer tous les pions qu'ils souhaitent avancer pour se retrouver en situation de négociateur, contrôleur, ce qu'on appelle les médiateurs gladiateurs hein, dans le langage moderne, hein, où on tient son
ça
affaire.
Ça plairait beaucoup à M. Poutine, parce qu'il adore se montrer torse nu.
Oui, tout à fait. Il se voit, je pense, très bien dans le film du même nom, mais où il gagne à la fin, en plus.
Oui.
Voilà. Et effectivement, cette situation-là est vraiment formidable, parce que, comme cela vient d'être évoqué, les grands sunnites de l'affaire, c'est-à-dire les Turcs et l'Arabie Saoudite, n'ont pas les mêmes agendas ni les mêmes objectifs. Que la question kurde est totalement obsessionnelle côté turc, alors rendue encore plus, je dirais, dure à travers le coup d'État et la purge hallucinante qui est en train de se produire. Et d'ailleurs, qui va, à mon avis, se continuer vers le Kurdistan, parce qu'il y avait Gulen au Kurdistan, Oshan, ouais. Je ne me trompe pas.
Hein. Donc Gulen, il faut le rappeler, qui est donc qui ce prédicateur exilé aux États-Unis et qui, après avoir été l'allié d'Erdogan dans un premier temps, est devenu la sa bête noire, dont il exige d'ailleurs sans succès l'extradition.
Monsieur Erdogan, il a eu gain de cause et il a obligé Monsieur Barzani de fermer toutes les écoles de Gulen au Kurdistan d'Irak, récemment.
Jean-François Daguzan.
Voilà, donc à partir de là, effectivement, et l'obsession PKK côté Kurdistan syrien, qui fait que à la fois vous avez justement une action turque qui pourrait être positive sur la sécurisation de la frontière et même de la Syrie globalement par la puissance que représente la Turquie en tant que telle, mais qui est totalement déviée par les propres obsessions kurdes. Et de l'autre côté, vous avez une Arabie Saoudite qui, elle, certes, est très engagé sur l'affaire syro-irakienne, mais dont l'obsession est ailleurs, là, encore une fois là aussi, c'est le Yémen. Et le Yémen, ça se passe horriblement mal. Ils arrivent à se fâcher avec les Émirats, ce qui est quand même un tour de force. Et Oman, ce qui est alors là absolument ahurissant.
Oman, qu'on a toujours considéré comme la Suisse.
Voilà, la
en
Suisse
quelque
est le grand médiateur
intergéopolitique
de la région. Donc, ça se passe très mal au Yémen et on voit très bien que le royaume a le plus grand mal aussi à construire une politique globale qui pourrait être justement l'anti-politique iranienne. Les seuls qui ont une machine qui pense clair, droit et avec une tête, c'est l'Iran. Et le rouleau compresseur iranien, il va falloir l'analyser très fortement dans sa future place dans la reconstruction de l'Irak, parce que ça va être déterminant. Parce que les Américains, ils vont rester un peu, mais qui va rester sur place ? Ben, c'est l'Iran.
L'Iran et la Russie.
Et bien entendu, la
et
Russie
c'est là où
pour
on retrouve,
revenir.
En fait,
voilà, l'alliance de fait, je ne suis pas sûr que ces gens-là s'aiment tout particulièrement, non. Mais ce sont deux pragmatiques face à face
qui ont une vision à long terme.
Et qui ont une vision peut-être pas, mais qui ont le sens de la propos et de la contingence. Autrement dit, c'est le momentum, comme on dit chez les stratégistes, où là, tout d'un coup, vous avez la possibilité de peser sur une décision et de la faire basculer à votre profit. Et pour ça, les Russes sont au cœur de ce dispositif.
Hocham Daoud, face à ce tableau, à ces rapports de force dont on voit à quel point ils sont ancrés et ils vont dominer encore une fois ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs, jusqu'à quel point est-ce que Washington d'un côté et les capitales européennes de l'autre peuvent véritablement peser dans les trois mois à venir ?
Et ils peuvent peser déjà sur le plan militaire. On ne peut pas vaincre Daesh sans l'apport de la coalition internationale. C'est un point important. Ils peuvent peser en associant le pays de la région dans une négociation avec des engagements. On sait aujourd'hui, pour stabiliser la situation en Irak et en Syrie, on ne peut pas passer de pays de la région, particulièrement l'Iran. Et il faut rappeler aussi les changements qui étaient produits par Obama concernant l'Iran. Qui est devenu un acteur.
Et donc c'est là, encore une fois, où on va voir que pour la prochaine administration américaine, ce sera un retour forcé aux enjeux du Moyen-Orient, malgré, encore une fois, les efforts désespérés de Barack Obama de s'en détourner. Merci à vous tous. Merci à Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez co-dirigé un ouvrage sur les armées du Moyen-Orient face à Daesh, Emma Édition, cette année. Hocham Daoud, anthropologue au CNRS, vous avez dirigé La Constante Tribu, Variation arabo-musulmane, Démopolis en 2013. Merci à vous, Elie Tenenbaum de l'IFRI. Vous avez publié La Sentinelle égarée, l'armée de terre face au terrorisme, dans Focus stratégique au mois de juin de cette année. Au téléphone depuis Erbil, au Kurdistan d'Irak, Gérard Chalian, que je remercie encore une fois. Il a publié chez Odile Jacob cette année Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, tout un programme. Merci à Eric Scholl, bien sûr. À la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Jacques Hubert, à la préparation de cette émission Meryl Moneghetti et dans quelques instants, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question. Bon week-end, à samedi prochain.